Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. À la une de l'économie ce matin, eh bien c'est quasiment acté. À 6 semaines de Noël, peu d'espoir de réouverture pour les commerces classés non essentiels, alors même que la période est cruciale pour eux. Réponse donc ce soir, 18h, avec cette conférence de presse de Jean Castex, qui suivra un nouveau conseil de défense sanitaire à l'Élysée ce matin. Émilie Vallès.
La situation actuelle est insupportable, s'indigne Sylvain Aurébi. Il est le président de la maison de Tekousmiti. Une partie de ces 85 magasins sont fermés car ils se trouvent dans des centres commerciaux.
Il faut qu'on ouvre maintenant rapidement. C'est une question de vie ou de mort pour l'ensemble des commerces français, petits ou grands. Le chiffre d'affaires du mois de novembre dans le retail, c'est environ 15% du chiffre annuel. Le mois de décembre, c'est environ 20% du chiffre annuel. Alors imaginez, si on ferme en novembre et décembre, il y a un tiers de notre chiffre annuel qui va disparaître.
Et avec les charges et le manque à gagner, les aides de l'État ne suffisent plus pour Lionel Saugue, vice-président de la Fédération française des associations de commerçants.
Les aides ne sont pas du tout au niveau des enjeux, clairement. On est en train aujourd'hui de constituer en réalité un véritable mur de dette. Si cette réouverture des commerces ne se fait pas, il faudra s'attendre à une véritable hécatombe partout en France.
L'Alliance du commerce, elle, appelle à une ouverture au plus tard le 27 novembre pour le dernier week-end du mois. Johan Petiot, son directeur général.
Ce qui permettrait aux commerçants d'être ouverts 4 week-ends avant Noël et donc d'étaler la fréquentation dans les magasins. Si nous réouvrons trop tardivement, le risque est de concentrer la fréquentation dans les magasins sur quelques jours et donc un nouveau risque sanitaire.
Et afin de pouvoir rouvrir rapidement, tous sont prêts à renforcer les mesures sanitaires.
Alors quoi qu'il se passe, rouvrir se fera dans des conditions sanitaires durcies. Bruno Le Maire évoquait mardi une jauge sanitaire à 8 ou 10 mètres carrés par client dans un magasin, ou bien la venue en magasin sur rendez-vous uniquement avec réservation de créneaux horaires via peut-être une sorte de Doctolib public du commerce. Alors est-ce viable ? Voir hier, en tout cas le patronat de l'hôtellerie-restauration révélait un sondage, 66% des professionnels, sur plus de 6600 entreprises du secteur interrogées, craignent que le reconfinement actuel condamne leur établissement. Il va donc falloir tenir jusqu'au vaccin, même si on l'a. La reprise en zone euro risque, elle, d'être instable. C'est la prévision faite hier par Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Alors, même si les premières vaccinations dans l'UE démarrent au premier trimestre, comme l'espère Bruxelles, le cycle économique, lui, va encore vivre un petit moment au rythme de l'épidémie. Quel impact sur les entreprises ? Écoutez Denis Ferrand, le directeur général de Rexecode.
Il y aura probablement une recherche de rééquilibrage par une compression des coûts, par une faible progression des embauches, voire un recul de l'emploi, et donc un processus qui n'est pas favorable à maintenir durablement une croissance élevée. Alors les secteurs qui sont les plus à la peine, ce sont ceux qui souffrent de toute façon pendant cette récession, parce que ce sont eux qui voient leur solvabilité la plus menacée. Ce sont les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, le secteur du transport aérien et tout ce qui est d'une certaine manière lié à la mobilité des personnes. Ce sont des secteurs qui mettront du temps avant de retrouver un rebond d'activité.
Voilà, dans ce scénario de stop and go, que vont faire les banques centrales ? Continuer ce qu'elles font déjà. La BCE va probablement augmenter son soutien à l'économie de la zone euro en augmentant d'une part ses achats d'obligations d'État et d'entreprises, le fameux programme PEP, et puis ces prêts géants aussi aux banques, les fameux TLTRO. Ils resteront les principaux instruments d'ajustement de notre politique monétaire, déclarait hier Christine Lagarde.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h42, le gouvernement envisage par ailleurs un nouveau geste pour les chômeurs. Le ministère du Travail n'exclut pas de prolonger l'indemnisation de ceux dont les droits vont s'épuiser durant ce second confinement. Elisabeth Borne avait pourtant affirmé le contraire il y a 2 semaines, déclarant qu'il y a des offres d'emploi en ce moment. À la page immobilier, un répit aussi pour le Pinel et le PTZ, le prêt à taux zéro. Le gouvernement songeait à arrêter les deux dispositifs l'an prochain. Il devrait finalement être prolongé jusqu'en 2022. C'est un soulagement donc pour le secteur de la pierre qui souffre déjà commercialement de l'interdiction des visites. L'immobilier contrarié aussi par les multiplications des refus de prêts de la part des banques. Le taux de refus a bondi depuis le début de l'année de 15 à 20%, conséquence des exigences du Haut Conseil de stabilité financière. Céline Cajoulis.
Au début de l'année, le Haut Conseil de stabilité financière a demandé aux banques de ne plus dépasser les 33% d'endettement, comme elles le faisaient parfois. Jean-Marc Villon, directeur général du Crédit Logement.
On a pu voir les banques accepter d'aller au-delà d'un tiers de taux d'endettement. C'est peut-être 35%, 37%, mais jamais au-delà. Plutôt sur des emprunteurs qui ont des revenus évolutifs, qui ont une situation qui permet d'envisager, avec un reste à vivre significatif, de pouvoir avoir ce type de financement sans qu'à notre sens, il n'y ait de risque trop important.
C'est donc devenu plus difficile d'obtenir un prêt lorsque l'on est primo-accédant ou lorsque l'on travaille dans un secteur touché par la crise du Covid, comme l'hôtellerie-restauration ou l'aéronautique. Philippe Taboret, directeur général adjoint du courtier CAFPI.
Quand un emprunteur vient nous voir et qu'il est au chômage partiel depuis un certain temps, on l'aide à réfléchir. Est-ce qu'il est sûr de son projet ? Mais beaucoup s'auto-éliminent, hein. Faut aussi en avoir conscience. C'est aussi une baisse de la demande parce que les perspectives économiques dans certaines activités se réduisent et donc il y a plein de gens qui abandonnent leur envie de propriété, ou en tout cas qui la diffèrent.
Quant au taux d'intérêt, il reste bas, compris entre 1,10% sur 15 ans et 1,55% sur 25 ans.
À l'actualité des entreprises, la reprise de l'usine Smart d'Ambar en Moselle, bien sur les rails, hein, c'est, semble-t'il, le pétrochimiste britannique Ineos qui devrait racheter le site à Daimler. C'était le seul projet en lice. Il devrait recevoir aujourd'hui l'approbation du comité économique et social d'Ambar. Ineos qui projette d'assembler à Ambar son nouveau 4x4 thermique, le Grenadier, après un investissement de 500 millions d'euros. On reparle aussi ce matin de la fusion Veolia-Suez. Suez, visiblement, ne baisse pas les bras dans les échos ce matin. Philippe Varin, le président de Suez, qualifie d'opaque l'offre de son concurrent et maintenant actionnaire Veolia. Le Figaro de son côté. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Le Figaro révèle que la direction de Suez, elle continue de travailler avec le fonds Ardian pour bâtir une contre-offre.
Effectivement, l'objectif est de lancer une OPA sur la totalité du capital de Suez afin de revendre la société à un meilleur prix dans plusieurs années. La tâche est compliquée, il faut évaluer au mieux la valorisation de Suez et trouver des partenaires disposés à mettre suffisamment d'argent sur la table pour garantir le succès de l'OPA. À cela s'ajoutent deux obstacles de taille. Le premier est la fondation de droit néerlandais mise en place par le conseil d'administration de Suez. Elle sanctuarise l'activité aux France. Il faut la désactiver pour permettre de racheter la totalité du capital de Suez. Autre difficulté, séduire tous les actionnaires. Or, Veolia s'est battu pour acheter la participation de 29,9% d'Engie dans Suez et n'a aucune intention de la céder. En début de semaine, Antoine Frérot, le président de Veolia, a tenu à rappeler devant les sénateurs que Veolia était un rempart à une offensive chinoise sur le capital de Suez. Il leur a même proposé un mécanisme inédit de contrôle parlementaire capable de sanctionner Veolia en cas de non-respect de ses engagements économiques et sociaux envers Suez.
Alors, Antoine Frérot qui a révélé quand même que, semble-t-il, une offre chinoise de Beijing Group, le grand rival de Veolia, eh bien circulait pour le rachat de Suez. Dans un autre secteur, maintenant, les jeux vidéo, après les deux nouvelles Xbox de Microsoft mardi, sorties ce jeudi aux États-Unis et au Japon, de la PlayStation 5 de Sony, elle arrive chez nous la semaine prochaine. Carton plein aussi pour Alibaba en Chine, pour sa traditionnelle fête des célibataires, chaque 11 novembre depuis 15 ans, le géant chinois du commerce a réalisé en 24 heures, tenez-vous bien, 64 milliards d'euros de ventes avec un nombre record de 583 000 commandes par seconde. Et puis l'actualité internationale, Joe Biden poursuit hors circuit officiel ses prises de contact avec les dirigeants internationaux. Hier, il s'est entretenu avec le Premier ministre japonais Suga Yoshihide, le démocrate qui a choisi aussi son directeur de cabinet. Il s'appelle Ron Klain, vétéran des administrations démocrates, hein, puisqu'il fut le directeur de cabinet d'Al Gore sous Clinton, et le monsieur Ebola de Barack Obama. Les marchés pour finir, le CAC 40 en hausse pour la troisième séance d'affilée. Hier, plus 0,48%, 5 445 points. Alors on revient un peu sur les valeurs tech qui avaient été délaissées en début de semaine. Dassault Systèmes ainsi regagne 3,18%, Atos plus 1,79%, ça tient en revanche pour Carrefour plus 1,78%, le luxe aussi LVMH plus 2,83%. À Wall Street, le marché lui revient vers la tech aussi, le Nasdaq plus 2%, quand le Dow Jones lui stagne moins 0,0%.